sans détour avec Élisane Pellerin.
Bonjour, bienvenue à Sans détour. Cette semaine, on s'entretient avec Samuel Rago, étudiant au doctorat en travail social à l'Université McGill et Anaïs Sagnard aux politiques publiques de la SQDI pour parler du rapport de la Commission des droits de la personne sur l'accessibilité à l'emploi des personnes handicapées. On rejoint par la suite Annick Daigneault et Martine Assien qui sont créatrices de Loup et Pieds en haut, une œuvre de réalité virtuelle sur les personnes autistes. Et on termine l'émission avec Julie Montreuil, directrice clinique du Carrefour familial des personnes en situation de handicap, pour nous parler de l'aide aux victimes de violence. On rejoint M. Rago au téléphone, qui est analyste senior aux politiques publiques de la Société québécoise de déficience intellectuelle et étudiant en doctorat à l'Université McGill. Bonjour, M. Rago.
Bonjour.
Vous venez nous parler, M. Rago, de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse qui a publié récemment un rapport qui critique un modèle d'aide d'insertion à l'emploi du gouvernement du Québec. Et donc, vous êtes penché sur la question du modèle d'emploi pour la Société québécoise de la déficience intellectuelle.
Oui, absolument. Alors, je peux peut-être vous expliquer un petit peu l'année?
Oui, expliquez-nous.
Oui, alors ce que la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a dit, en gros, là, très rapidement, c'est que le modèle québécois semble ne pas fonctionner comme il devrait. En tout cas, il n'a pas accompli les promesses qui avaient été faites ou qui étaient attendues, en tout cas. Et il est donc temps de revoir certains éléments du modèle, voire la majorité des éléments du modèle. Donc, c'est un rapport quand même important qui a beaucoup marqué, je pense, les esprits dans la communauté. Et nous, à la SQDI, évidemment, on est en faveur de l'embauche, de l'emploi régulier, de ce qu'on appelle l'embauche inclusive, donc d'avoir les personnes en situation de handicap, qui ont une déficience intellectuelle ou une autre forme de limitation fonctionnelle, au sein des milieux de travail inclusifs, réguliers, donc que ces personnes-là reçoivent un salaire comme les autres et qu'elles aient les mêmes avantages sociaux et compagnie. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui a fait écho avec nos positions, mais aussi avec celles d'autres organisations dans le milieu. Donc, on a depuis discuté avec le ministère de l'Emploi, on leur a proposé nos propositions pour la stratégie nationale pour l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées. Et on attend de voir un peu ce qui va en découler.
Commençons par le commencement. Quels enjeux on voit? C'est quoi le problème au niveau de l'employabilité des personnes en situation d'handicap et du modèle qu'on met de l'avant en ce moment?
Mais très clairement, on le sait, les personnes en situation de handicap ont des taux d'emploi qui sont moins élevés que les personnes qui n'ont pas de limitation. Donc ça, c'est un premier enjeu, mais qui en découle, dont découle d'autres enjeux, dont par exemple la pauvreté. Donc on sait évidemment que quand on n'a pas un emploi, souvent on est obligé d'avoir recours au programme d'aide financière de dernier recours, donc l'aide sociale, la solidarité sociale, ou dans certains cas, le programme de revenus de base. Et ça évidemment augmente le niveau de pauvreté des personnes. Ce qu'on entend, ce qu'on lit quand on lit le rapport de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, c'est que ce modèle qui existe au Québec depuis à peu près 50 ans, il ne permet pas, ou il n'a pas permis en tout cas d'augmenter de façon significative ou de façon satisfaisante les taux d'emploi des personnes en situation de handicap. Bon, ce qu'on lit, c'est qu'il y a encore beaucoup de discrimination à l'emploi. Ça reste d'ailleurs le critère numéro un de plainte à la commission. Et ce qu'on voit, c'est que, bien évidemment, les moyens manquent. Mais aussi, peut-être, puis là, la commission n'est pas allée jusqu'à dire que ça, par ailleurs, je tiens à préciser, Ça, c'est une interprétation vraiment plus personnelle. Mais clairement, il y a un manque de volonté politique et d'intérêt politique à améliorer la situation fondamentalement.
Et c'est quoi le modèle, en fait, là, dont on parle? Sur quoi il est basé? Qu'est-ce qu'ils mettent d'avant qui ne fonctionne pas?
Mais il y a beaucoup de choses hein, dans le modèle d'employabilité, évidemment, parce que les personnes en situation de handicap, mais c'est pas un groupe qui est homogène. Donc, chaque type de handicap peut avoir des besoins très spécifiques. Mais on voit que, par exemple, les programmes de type, par exemple, plateau de travail ou atelier de travail, ou même les stages en emploi, ne mènent pas nécessairement à de l'embauche à long terme ou ne mènent juste pas à de l'embauche en général. On voit aussi que le recours, permanent dans certains cas au contrat d'intégration au travail n'est pas nécessairement la bonne solution puisqu'elle crée une dépendance financière de la part des employeurs pour des employés qui sont potentiellement tout aussi productifs au final. Il y a beaucoup d'enjeux là qui sont soulevés dans le modèle actuel. Nous, à la SQDI, on pense qu'il y a d'autres choses qui pourraient être faites en ajout de ce qui est fait actuellement. Et c'est un peu ce qu'on a proposé là, au ministère de l'Emploi dans les deux dernières années pour faire cheminer la réflexion de tout le monde. Donc, c'était bien avant même le rapport de la commission.
Vous nous avez parlé un peu de ce que vous vouliez mettre de l'avant là, à la SQDI, mais plus précisément, là, qu'est-ce que vous proposez comme solution?
Bien, on croit beaucoup, nous, à l'embauche inclusive pour les personnes qui sont capables d'avoir un travail. Puis là, je tiens à le dire, bon, c'est pas toutes les personnes qui ont une déficience intellectuelle et c'est pas une question de dire que les gens sont pas capables ou sont capables, mais c'est vraiment de dire que les employeurs ont des attentes particulières et certaines personnes ne sont pas nécessairement en mesure de répondre à ces besoins-là. Une fois que ça c'est dit, la majorité des personnes ayant une déficience intellectuelle ont une déficience intellectuelle légère.
Oui.
Donc, elles sont tout à fait aptes à aller en emploi, ne serait-ce qu'à temps partiel, par exemple. Ce qu'on dit, c'est une bonne chose, par exemple, ce serait d'avoir de l'accompagnement en emploi. Donc, des modèles d'instructeurs, accompagnateurs en emploi ou instructrices qui permettent de soutenir non seulement la personne, mais aussi le milieu de travail. Parce que c'est important de ne pas se centrer juste la responsabilité de l'inclusion du milieu de travail juste sur la personne elle-même. C'est le milieu de travail, c'est les pratiques de travail, c'est les descriptions de tâches, c'est toutes les mesures d'accommodement qu'il faut réfléchir en fonction de comment est-ce qu'on peut être plus inclusif? Ça bénéficie par ailleurs à tout le monde.
C'est aussi les comportements, oui. Pardon, c'est aussi les comportements donc des gens autour, des autres employés et des employeurs. Hein. On met ça beaucoup sur les épaules. Vous l'avez dit, des personnes qui ont une déficience intellectuelle, mais c'est aussi les gens autour là, qui doivent comprendre la situation et s'adapter.
Absolument. Puis on le sait, le capacitisme, c'est quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement prévalent dans la société. Il y en a encore énormément. Il y a beaucoup de croyances erronées sur les capacités des personnes en situation de handicap, qu'elles aient une déficience intellectuelle ou pas. Nous, ce qu'on dit, c'est que, encore une fois, la majorité des personnes qui ont une déficience intellectuelle sont aptes à travailler si on leur donne un soutien au début, puis parfois en accompagnement en emploi. On tend à le voir de plus en plus. Mais effectivement, il faut sensibiliser pas juste les ressources humaines, mais aussi les collègues. Parfois, il faut donner de la formation aux collègues, il faut expliquer, il faut déconstruire certains préjugés, déconstruire certaines idées reçues. Donc, il y a un véritable travail là, d'éducation à faire auprès des communautés dans lesquelles les emplois se trouvent. Parce qu'évidemment, le but, c'est pas d'avoir un emploi, d'être malheureux en emploi. C'est pas du tout ce qu'on cherche.
Évidemment, être malheureux en emploi, ben, ça amène d'autres problématiques hein, au niveau de la santé mentale. Alors, entre autres, qu'est-ce qu'on gagne comme Québec, comme société québécoise à favoriser l'insertion des personnes en situation de handicap au travail? Pourquoi les personnes de la société, tout le monde devrait se sentir concerné par cet enjeu-là?
Bien, c'est un problème collectif dans la mesure où ça reflète quand même beaucoup les priorité qu'on se donne en tant que société, évidemment, de dire que on laisse personne derrière. Évidemment, si on y va sur un angle plus économique, une personne qui travaille, c'est une personne qui paye de l'impôt.
Oui.
Donc, une personne qui est sur le programme de revenu de base, ben, la personne a le droit de travailler environ 15 600 $ là, en 2025. 15 600 $ ça nous mène, si on mettons la personne travaille jusqu'à cette limite-là, plus son chèque d'aide sociale, ça nous mène dans un palier d'imposition où la personne paye de l'impôt réellement.
Oui.
Donc, il y a une logique économique qui n'est pas ma logique préférée parce que je pense que l'inclusion, d'une part, c'est un droit, mais d'autre part, ça devrait être une valeur fondamentale au Québec.
C'est la préférée du gouvernement, par contre.
Certes, c'est certes. C'est sûr que le gouvernement, lui, regarde beaucoup ses colonnes de chiffres. Oui, effectivement, on s'entend. Là. Encore une fois, quelqu'un qui paye de l'impôt, c'est quelqu'un qui est... C'est une bonne nouvelle de payer de l'impôt. C'est une bonne nouvelle en général. Ça veut dire qu'on sort de la pauvreté puis qu'on a une activité qui nous permet de vivre de façon un petit peu plus digne. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça veut quand même pas dire qu'il faudrait pas donner plus d'argent aux gens sur les sociales. Je pense que c'est absolument crucial de les supporter plus. Parce qu'actuellement, tout le monde vit sous le seuil de pauvreté quand on est à l'aide sociale ou même au programme de revenu basse. Mais c'est une bonne nouvelle. Payer de l'impôt, c'est une bonne nouvelle. Je sais que c'est pas comme ça qu'on le voit généralement, mais quand même, sur le principe, ça l'est.
Il y a beaucoup de personnes en situation de handicap qui seraient d'accord avec vous, qui crèveraient de payer de l'impôt. Et j'avais dit un peu tout à l'heure, évidemment, le fait de ne pas être en emploi, ça mène à la pauvreté, ça mène aussi à différents problèmes de santé mentale, de santé physique également, qui finissent par coûter cher à la société au-delà du revenu de base qu'on doit payer. Ça crée aussi des problèmes qui sont coûteux.
Absolument. Puis il y a tout plein d'études là, depuis des années qui montrent que la prévention, c'est la meilleure solution. Donc chaque dollar qui est investi en prévention, en santé, en services sociaux, c'est plusieurs dollars qui nous sont sauvés, entre guillemets, collectivement en termes de coûts ultérieurs. Puis évidemment, on sait que le travail, pas dans tous les cas, on s'entend qu'on est dans un milieu de travail toxique, c'est pas notamment le cas, mais ça peut briser l'isolement, ça peut favoriser d'avoir des contacts sociaux plus réguliers, ça peut être quand même bénéfique. C'est important quand même de nommer le fait qu'il n'y a pas juste le travail qui peut faire ça dans la vie. Ce qu'on voit, c'est que oui, le travail est important, mais pour les gens qui sont pas, mettons, en mesure de travailler ou qui répondent pas aux besoins du marché de l'emploi tel qu'il existe actuellement, on maintient quand même que c'est vraiment crucial que ces personnes-là on leur offre des activités qui soient stimulantes, qui leur donnent un rôle social actif, qui les fassent participer à la société, qui leur donnent un rôle qui est valorisé, puis qui est valorisant, puis qui n'est pas juste d'occuper leur temps, essentiellement. Puis ça, c'est quand même important de le préciser parce que le travail, ça ne devrait pas être la façon dont on définit la valeur d'une personne. Une personne a une valeur qui est intrinsèque, c'est-à-dire que c'est une personne, donc elle a une valeur, point. Il n'y a pas de négociation à avoir là-dessus. Et donc, il faut quand même sortir un peu parfois là, du mode de le travail équivaut à la valeur de la personne. C'est pas ce qu'on pense, mais ça reste quand même quelque chose de potentiellement intéressant pour favoriser tout ce qu'on a dit de la participation sociale, le sortir de la pauvreté. Et compagnie.
Ça reste un préjugé de la société. Là. Si tu travailles pas, entre guillemets, et là, je mets des guillemets, si tu travailles pas, tu sers à rien. Voilà, c'est un peu un des nœuds, je devrais dire, du problème, en fait. C'est qu'on valorise énormément l'emploi et on valorise l'emploi selon des termes une ancienne vision du travail dur, des chiffres, de la productivité. Quand je dis ça, je parle évidemment de la productivité en termes de chiffres, en termes de rentabilité. Hein.
Effectivement, ça, c'est une conception très néolibérale de l'individu, que notre valeur est vraiment liée à ce qu'on est capable de rapporter comme plus-value à un employeur. C'est une façon très problématique de voir la valeur des individus et des humains en général. Puis c'est sûr qu'on a quand même une contamination là, qui se manifeste à ce niveau-là actuellement. Mais c'est pas juste les personnes en situation de handicap, là. On le voit pour les personnes en situation d'itinérance, on le voit pour les personnes aînées, on le voit pour plein de catégories qui sont aux marges du système actuellement, qui sont considérées comme étant moins importantes ou moins en anglais on dirait deserving, donc elle mérite moins là, d'avoir du soutien, ce qui est absolument sur quoi je suis pas d'accord du tout.
Évidemment. Oui, on s'entend, c'est fou, mais c'est la vision un peu sociétale qu'on maintient malheureusement.
Absolument. Puis c'est un peu ça qui est difficile parfois, effectivement, là, de On s'est beaucoup posé la question, puis c'est pour ça un peu que quand on parle du travail, on parle aussi des autres activités qui peuvent oui. être valorisantes, qui peuvent avoir un rôle social actif pour les personnes qui sont pas nécessairement en mesure de travailler ou dont le profil, disons, est encore fait l'objet de beaucoup de discrimination ou ne répond pas exactement aux besoins oui. des employeurs. Donc, c'est important de parler de travail, c'est important de parler d'alternatives au oui. travail aussi, puis de dignité humaine.
Merci beaucoup d'en parler et merci de votre travail au sein de la Société québécoise de déficience intellectuelle. Si on veut avoir plus d'informations, soit sur votre campagne ou sur les services que vous donnez à la Société québécoise de déficience intellectuelle, où est-ce qu'on peut aller?
Alors, on a notre site principal qui est la SQDI.ca, donc la Société québécoise de la déficience intellectuelle. Mais on a aussi une campagne en emploi qui s'appelle « J'ai ma place ». Donc, le site, c'est tout simplement jaimaplace.ca, donc tout attaché. Puis, on a une partie sur l'emploi, on a aussi une partie sur l'habitation, qui était notre campagne de l'année dernière, mais qu'on continue à travailler. Donc, on a le site de la SQDI et encore une fois, le site jaimaplace. Donc, c'est deux sites où il y a beaucoup de contenu, il y a des vidéos de sensibilisation, il y a du matériel professionnel, il y a des liens vers des recherches, des liens vers des sites de meilleures pratiques et plein d'autres choses. Donc, c'est vraiment des sites où il y a beaucoup de choses là, pour contribuer à la réflexion puis peut-être donner des outils aux gens qui l'ont besoin.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, M. Rago. Vous êtes donc étudiant doctorant en travail social à l'Université McGill et analyste senior aux politiques publiques de la SQDI. Au plaisir de vous reparler.
Merci beaucoup à vous. Bonne journée.
Au revoir. Rejoins maintenant Annick Gagnon et Martine Assien qui sont créatrices de Lou et Pieds en haut, une œuvre de réalité virtuelle. Bonjour, madame.
Hello.
Salut.
On va se tutoyer parce qu'on se connaît bien. Parlez-moi d'abord de l'œuvre. Qu'est-ce que Lou et Pieds en haut?
Lou est une œuvre de réalité virtuelle que Martine et moi avons conçue il y a 10 ans et qui a été, qui a été rendue accessible au public depuis les 3 dernières années. Et c'est une œuvre qui a été réalisée de manière totalement inclusive à toutes les étapes du projet qui permet d'expérimenter le monde avec la sensibilité d'une personne autiste à travers les yeux d'un petit personnage fictif qui s'appelle Lou. Et c'est né, cette œuvre-là, d'un fantasme. Martine et moi, là, si on avait eu une baguette magique il y a 10 ans, notre plus grand souhait aurait été de passer quelques instants dans la tête et dans le corps de nos enfants. Fait qu'à défaut d'avoir Harry Potter dans notre famille, on sait gérer le projet et on a créé cette œuvre-là.
Donc, vous le dites, ça c'est arrivé il y a 3 ans. Et en 3 ans, ça a quand même fait du chemin, là, comme cette œuvre-là, ça a quand même été reconnu à plusieurs endroits.
Oui, elle a fait un bon bout de chemin à travers le monde, en fait, cette œuvre, autant en Australie qu'au Japon, qu'en Europe, ici aussi... dans le Canada. Donc, oui. Non, non, c'est une œuvre qui sait rejoindre les gens, peu importe où ils sont là, situés, puis leur appartenance culturelle. Tu sais, c'est un sujet universel quand même, là, l'autisme, ça touche des gens partout. Fait que il y a quand même une belle audience là, pour ça.
Vous avez même été diffusé au siège de l'ONU à Genève, ce qui n'est pas rien.
En effet, on était quand même proud to brag about. Oui.
Donc, vous avez été diffusé dans le cadre des festivités là, par rapport à la semaine pour les personnes en situation de handicap, si je ne me trompe pas.
C'est-tu pour les personnes ou pour le mois de l'autisme?
Ah, pour le mois de l'autisme, c'est toi qui as raison, Annick, c'était pour le mois de l'autisme.
Pour l'instant, c'est pour le mois de l'autisme en avril.
Oui, c'était en avril pour le mois de l'autisme. Tu as raison, Annick. Et trois ans plus tard, où en est le projet?
Toujours vivant. Toujours vivant, vrai. Et on a désormais dans notre équipe, on travaille toujours avec Hublot au niveau de la distribution. C'est bien qu'au niveau des institutions culturelles, ça réduit en intensité les festivals, tout ça. On est quand même reconnaissante parce qu'on a fait 2 ans d'événements et de festivals à travers le monde. C'est une belle durée de vie. Puis, en plus de faire des milieux scolaires, des entreprises, des organismes, ça, on a des demandes parfois même des particuliers. Fait que le projet continue de rejoindre les gens et de se promener à travers le Québec. Fait que, nous, on accompagne notre œuvre en mode de quoi, soit conférence ou encore en médiation culturelle. C'est-à-dire que, par exemple, on déploie une flotte de casques dans un milieu donné. Par exemple, appelons une bibliothèque. Nous allons dans une bibliothèque à Laval et on déploie la flotte de casques. Les gens arrivent dans le local. On a une course conversation pour se mettre à jour un peu à niveau en termes de langage bienveillant. C'est quoi l'autisme? C'est leur connaissance, leurs attentes. C'est à quel point ils en côtoient au quotidien dans leur milieu de travail. Ils font l'expérience du casque. Et on a un retour d'environ, comme dépendamment du temps que les gens ont alloué à ce projet-là, cette rencontre-là, entre 10 et 30 minutes. Ça donne des échanges extrêmement riches avec la médiation culturelle.
Tu sais, ça reste que c'est une œuvre culturelle à la base, mais ça a vraiment une portée comme un outil de sensibilisation,
oui.
Un outil social. L'impact de l'œuvre socialement a été reconnu aussi là, par certains prix ici au Québec, puis
avec des chercheurs
à Milan, puis à d'autres endroits. Là. Fait que, tu sais, c'est une œuvre qui a vraiment un certain impact sur les gens qui l'expérimentent. Puis elle est quand même encore disponible au grand public en suivant notre page Facebook ou notre site Internet. T'sais, cette année, on devrait faire une coupe de maisons de la culture dans la région de Montréal. Puis, tu sais, on dit toujours aux gens, si vous voulez qu'on aille visiter votre région, tu sais, essayez de trouver un partenaire culturel dans votre patelin qui serait prêt à nous recevoir. Tu sais, on vient avec des casques, tu sais, on a tout ce qu'il faut techniquement pour que les gens puissent avoir accès à la technologie de la réalité virtuelle qu'on utilise. Donc, ça peut être là, vraiment intéressant pour nous aussi de se promener puis d'aller un peu en région plus loin que ce qu'on est déjà allé là, au Québec.
Absolument.
J'imagine que le projet dépasse vos attentes. Vous vous attendiez pas là, à faire le tour du monde littéralement avec cette œuvre-là?
Bien, on espérait. C'est pas parce que tu mets tout ton amour, ton énergie, ton argent dans un projet comme artiste ou dans une œuvre que tu vas atteindre tous tes souhaits, tes objectifs. T'sais. Fait qu'on est extrêmement reconnaissants. On est conscients du travail, des efforts qu'on a mis. Puis ça aussi, on le reconnaît. Et du travail que nos partenaires, nos alliés, les gens qui ont cru dans ce projet-là, tout ce qui a été investi d'amour, de temps, puis d'efforts, de talent. Mais effectivement, le projet a une portée, mettons, puis un déploiement qui nous a...
surprise, quand même.
Surprise,
en tout cas, on est très reconnaissants parce que, tu sais... Ça partait tellement du cœur, ce projet-là. Tu sais, on est toutes les deux mamans d'enfants. Ouais. Comme maman d'enfants autistes, c'est un sujet qu'on vit quotidiennement.
Oui.
Tu sais, ça prend beaucoup de place dans nos vies. Ça prend beaucoup de place. Ça a pris beaucoup de place dans notre imaginaire pendant quand même les 10 années où on a pensé ce projet-là, fait ce projet-là et qu'on diffuse ce projet-là. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on est super contente et reconnaissante de rejoindre un vrai auditoire, tu sais. Rejoindre autant de monde.
Qu'est-ce qui fait, selon vous, que le projet marche autant?
Bien, le sujet, first, le médium aussi. C'est le fait qu'on n'est pas dans quelque chose qui dissocie l'expérience de la personne et sa sensibilité à l'expérience d'une autre personne ou est-ce qu'on la plonge à travers des métaphores, à travers des jeux, c'est un aspect un peu ludique dans la sensibilité de quelqu'un d'autre ou est-ce qu'on... C'est comme si ça facilite le rapport à l'empathie puis à notre propre vulnérabilité, notre propre sensibilité, le fait d'être plongé dans cette perception distincte de la nôtre, c'est plutôt que d'en être témoin, d'être actif dans ça. Fait que il y a le sujet, le médium. Je pense que le fait qu'on est aussi qu'on était aussi hardcore rad là, sur l'inclusion, puis qu'on soit nous portés par tellement d'amour, j'ai l'impression que ça fait son chemin dans le cœur du monde. Tu sais.
Oui, je pense que c'est touchant, même si tu n'es pas concerné directement par que tu n'as pas de personne autiste dans ta famille. Je pense que humainement, c'est un projet qui est facilement compréhensible, puis que tu ressens. Fait que je pense que tout ça, là, cette humanité-là, puis cette, on dit affection, mettons, qui sort de l'œuvre, qui émane de l'œuvre, fait que ça vient chercher le public.
Il y a aussi le fait que la réalité virtuelle, les casques de réalité virtuelle sont à la mode là, dans les dernières années. Donc, j'imagine que ça aussi, ça vous aide, là, même si c'était pas calculé.
Ben, c'était calculé.
C'était
voilà.
Calculé.
It was.
Ouais, ben, tu sais,
bon point.
Des fois, on dit le médium et le message. Là. Dans ce cas-ci, tu sais, le médium sert vraiment notre message. Tu sais, rentrer dans un casque de réalité virtuelle, c'est rentrer dans une autre dimension, là, pour vrai. Tu vois plus le monde réel, tu es ailleurs. Fait que, tu sais, il y a déjà d'accepter d'être dans la posture d'une autre personne. C'est complètement compatible avec ce dispositif-là. Fait que c'est cohérent et puis ça amène vraiment quelque chose. Puis même si c'est encore niche, là, comme médium, on s'entend que c'est pas tout le monde qui a un cache chez eux puis tout ça, là, ça reste niché. Tu peux pas être 500 à le faire en même temps comme dans une salle. Mais quand même, la qualité de l'expérience que ça donne, c'est un grand vecteur, je pense, de réussite.
On vous souhaite évidemment là, de la réussite avec votre projet dans les prochaines années, que ça continue de vivre et évidemment dans vos prochains projets, parce que j'imagine qu'il y aura des prochains projets là, pour vous deux. Si on veut en savoir plus sur le projet Lou, Les Pieds en haut, où est-ce qu'on peut aller?
Sur le site web, sur lespiedsenhaut.com. Sinon, on a une page Instagram qui mérite tellement d'amour, là. C'est slow pace. On l'a développé tellement tard. Allez liker notre. Suivez-nous sur notre page Instagram, question de bonifier notre ego. Et sinon, sur Facebook aussi. On partage toujours les updates dans les médias sociaux, mais sinon, on met aussi à jour quand même régulièrement l'info là, sur notre site pour que les gens puissent découvrir où l'œuvre sera déployée pour pouvoir l'expérimenter.
Annick Daigneault, Martine Assien, merci d'avoir été avec nous et on vous souhaite bon succès pour la suite.
Bien, merci.
Bye-bye.
Vous écoutez Sans détour.
On est maintenant avec Mme Julie Montreuil, directrice clinique du Carrefour familial des personnes handicapées. Bonjour, Mme Montreuil.
Bonjour, ça va bien?
Ça va bien vous-même?
Oui, vraiment.
Vous êtes avec nous pour parler de la première maison d'hébergement d'urgence pour personnes en situation de handicap qui est ouverte à Québec en juillet. Mais d'abord, parlez-nous de votre organisme.
Alors, le Carrefour familial des personnes handicapées est un organisme d'aide, entraide et on fait de la défense de droits aussi, de l'éducation populaire, puis on vise l'autodétermination des personnes. Mais c'est un organisme qui a quand même 75 ans et on est dans la capitale nationale.
Et quelles sont vos actions concrètement? Quels sont vos services pour aider les personnes victimes de violences conjugales? Autre, là, évidemment, la maison d'hébergement dont on va parler dans les prochaines minutes.
Parce que je vais faire une distinction. Nous, la maison, c'est pas une maison d'hébergement, c'est un logement d'urgence.
Ah, oh, pardon.
Et c'est pour les personnes, les femmes en situation de violence conjugale, mais c'est aussi pour toute situation qui demande d'avoir un hébergement d'urgence ou transitoire pour 6 mois. C'est que ça peut être autant que il y a une inondation dans votre logement puis que vous devez vous relocaliser ailleurs, mais dans un appartement accessible et adapté. Alors, vous pouvez avoir cet appartement-là pour une durée de 6 mois. C'est que pour des personnes donc, qui sortent de l'hôpital, qui ont des situations, en fin de compte, où la stabilité résidentielle devient critique, c'est vraiment pour contrer l'itinérance ou encore l'instabilité résidentielle. Alors, c'est vraiment le but là, de ce logement-là.
Et c'était un besoin parce que, justement, vous êtes le premier. Il n'y en avait pas là, des logements comme ça qui étaient adaptés aux personnes en situation de handicap.
Non, effectivement, nous, c'était un gros besoin à Québec. Ça a commencé, en fait, parce que notre ancien président avait eu, justement, une inondation dans son logement, puis de faire des réparations. Puis il devait aller ailleurs, dans un autre endroit. Et puis, on n'a rien trouvé, autant au niveau des hôtels, au niveau des... C'est que c'est ramassé en RPA, mais là, RPA n'était pas accessible. C'est qu'il devait aller prendre ses soins dans sa chambre de bain, dans son logement, pour pouvoir prendre... C'est vrai que ça n'avait pas de sens comme situation, mais ça a duré quand même un bon 4-5 mois.
C'est quand même effectivement ridicule, mais ça montre qu'il y a vraiment besoin, parce que si c'était le cas de votre ancien président, ben c'est le cas de toutes sortes de personnes qui se retrouvent dans des situations précaires du jour au lendemain, puis que justement ont pas de plan B ou ont pas d'option là pour les aider à ce moment-là.
Puis on a vu qu'on était quand même sensibilisés à la violence conjugale, parce qu'on a comme on travaille aussi en violence conjugale. On savait très bien aussi qu'il y avait un besoin pour certaines femmes de pouvoir partir de chez elles et que les maisons d'hébergement n'étaient pas accessibles et adaptées. Cela étant dit, il n'y a pas un niveau de sécurité comme on retrouve dans les maisons d'hébergement. On s'entend, c'est un logement. Oui. C'est un logement situé en périphérie là, de Québec. C'est que c'est pas nécessairement... Il n'y a pas personne là 27 sur 27, 7 jours sur 7. Là. C'est qu'il faut que la personne ait quand même un degré d'autonomie. Mais on met aussi les services en place. Là. Je veux dire, si la personne a besoin de soins à domicile puis qu'elle n'a pas, elle va les recevoir. Ça, c'est certain. Là. C'est qu'on essaye aussi, pendant ce temps-là, de régler toutes les questions. Souvent, ça va être des questions médicales pour quelqu'un qui est nouvellement en situation de handicap. Là. Il va y avoir toute la question des aides techniques, toute la question de faire les rapports d'impôts. Souvent, on n'a pas de crédit, c'est qu'il faut refaire son crédit. C'est que c'est beaucoup de démarches administratives qui, lorsqu'on est toute seule, surtout en sortant d'un événement traumatique, que tu sais pas trop quoi faire, comment le faire, puis tu n'as pas nécessairement l'énergie aussi pour le faire. C'est que là, ça permet ce temps-là que les personnes puissent se déposer, qu'il y ait une intervenante qui soit avec eux pour faire toutes les démarches, pour reprendre le goût à la vie aussi, parce que des fois, ça peut être difficile. C'est de reprendre le goût à la vie, puis nous, on relocalise la personne, mais avec un suivi à l'externe. C'est qu'on continue à donner un suivi, même si elle est dans un logement permanent par la suite. C'est que c'est vraiment, nous, on vise que la personne vraiment soit stable au niveau du logement, qu'elle puisse avoir un endroit sécuritaire qui correspond à ses besoins. C'est vraiment ce qu'on vise.
C'est clairement un suivi donc, qui est fait de long à large de la personne. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau, en fait, ou qui est très peu mis d'avant par les organismes gouvernementaux ou communautaires. Là.
Effectivement. C'est vraiment, nous, on travaille sur tout l'axe de la stabilité résidentielle, de l'itinérance à la stabilité résidentielle. C'est que pour nous, c'est vraiment important de continuer à donner ce suivi-là puis de s'assurer que la personne est vraiment bien là. Puis tu sais, à un moment donné, on espace nos visites, on espace nos suivis, puis la personne elle devient complètement autonome, mais elle peut venir au carrefour quand même, c'est-à-dire qu'elle va avoir quand même un lieu d'appartenance, des activités, elle peut venir nous voir, elle peut venir prendre un café le vendredi. Il y a quand même beaucoup d'activités à lesquelles elle peut prendre part. Ça fait que ça l'aide aussi à ce niveau-là, au niveau social, par la suite, une fois que tout le volet de la vie privée et quotidienne là, est bien placé.
Ça aide à réduire l'isolement, puis comme on en parlait un peu plus tôt là, dans l'émission, à réduire aussi tous les problèmes qui viennent avec l'isolement, donc les problèmes de santé physique, les problèmes de santé mentale et tout ce qui s'ensuit.
Tout à fait. Puis nous aussi, on travaille beaucoup avec les autres organismes communautaires. On n'est pas tout seul là-dedans. Nous, on travaille beaucoup en collaboration. Mais qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on travaille aussi l'accessibilité des organismes communautaires. Fait que, tu sais, pour que justement que les organismes prennent conscience que souvent ils ne sont pas accessibles. C'est bien beau avoir, tu sais, faire qu'est-ce qui est sécurité alimentaire, les comptoirs d'alimentation, tout ça. Si les personnes peuvent pas y aller, c'est un problème. Ils n'y auront pas le droit. Fait que, tu sais, on sensibilise beaucoup les organismes, justement, à donner des, au moins accommoder puis donner des, rendre leurs locaux accessibles. Ce qui fait que on tisse aussi quand même un milieu social autour de la personne là dans la ville.
Vous faites bien de soulever cet enjeu-là parce que c'est pas un enjeu auquel on pense beaucoup. Il y a énormément d'organismes communautaires, mais la plupart ou du moins une partie d'entre eux ne sont pas accessibles là, à des personnes qui sont en situation d'handicap physique. Donc on restreint les services auxquels on droit ces personnes-là ou on accès à ces personnes-là. Alors que c'est des personnes qui, malheureusement, sont en marge de la société, donc qui pourraient avoir besoin de services communautaires plus que des gens qui ne sont pas en situation de handicap.
Ben oui, tout à fait. Je veux dire, en fin de compte, c'est les principales personnes qui en auraient le plus besoin. Oui. Je veux dire, souvent, c'est les personnes qui sont pas dans un état de richesse incroyable. C'est que nécessairement, tu sais, les friperies, c'est bête, là, les friperies. Je veux dire, moi, je peux aller dans les friperies dans un sol d'église, mais
oui, oui.
Personne en fauteuil, non. C'est que, tu sais, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de petites choses. Puis le milieu communautaire, on l'a jamais trop... tu sais, on a parlé beaucoup des commerces accessibles, tout ça. Mais le milieu communautaire, on dirait les organismes communautaires, on n'a jamais trop... Tu sais, ils n'ont pas d'argent. Tu sais, on n'a pas trop incité.
Non, effectivement.
Ouais, mais on s'aperçoit que, premièrement, quand on commence à en parler, ils deviennent vraiment beaucoup plus ouverts. Puis vraiment, il y a une volonté. On voit, il y a vraiment une volonté de changement, là. C'est que ça, c'est vraiment le fun. C'est qu'on travaille avec les organismes, on fait des partenariats avec eux. Nous, on a tout ce qui fait maintenant une cuisine collective. Puis c'est à cause que c'est nous qui avions dit, ah ben oui, les cuisines collectives, c'est le fun, mais nos membres ne peuvent pas participer.
Oui, un autre service qui est très intéressant, mais qui oublie l'accessibilité. Hein. Oui.
Tout à fait. Ça fait que cet organisme-là fait comme, OK, nous, on va aller chercher les fonds, puis on va vous la monter, la cuisine collective.
Donc, on voit quand même une belle participation de la part de la communauté, des centres communautaires qui répondent, en fait, à l'appel et qui font preuve de bonne foi et d'ouverture. Là.
Tout à fait. Tout à fait. C'est que le projet de logement d'urgence s'inscrit là-dedans. S'inscrit aussi qu'on est en plein milieu de Saint-Roch. C'est que c'est vraiment la place à Québec où il y a plus de personnes en situation d'itinérance. Nos bureaux sont là. C'est qu'on est très, très sensibilisés parce que c'est notre réalité à tous les jours. Puis on s'est aperçu que le nombre de personnes en situation d'handicap, en situation d'itinérance, était incroyable. C'est que le logement d'urgence nous permet aussi de documenter tout ça. Parce qu'il faut quand même, parce qu'il n'y en a pas de recherche faite sur le handicap et l'itinérance.
Non, il y en a très peu. Il y en a très peu, en fait. Et puis, effectivement, bon, il y a le fait que les personnes en situation de handicap aient plus de difficultés à accéder à l'emploi, soit, en général, malheureusement, là, plus inquiets à être en situation de pauvreté, mais ça les mène directement à la rue.
Oui, c'est ça. Puis souvent, ça prend pas grand-chose. Hein. Moi, j'ai des drames humains derrière. Là, je veux dire, c'est le monsieur qui fait un AVC, mais que pendant ce temps-là, sa conjointe, elle a un cancer généralisé.
Oui.
Elle est en train de mourir. Lui, il n'y avait plus de place, là. Il n'y avait plus de place où aller.
Non, c'est sûr que ça prend...
C'est des situations comme ça où que tu fais comme... Mais tu sais, ça peut être n'importe quoi, une amputation. Puis là, ça te mène directement à la rue. C'est que c'est vraiment le plus qu'on voit, c'est les hommes aussi qui prédominent de façon prédominante. C'est vraiment beaucoup les hommes, puis les hommes de 51 à 54 ans.
Et vous l'avez nommé tout à l'heure quelque chose d'aussi banal, entre guillemets, qu'un dégât d'eau. Hein, si on a nulle part où aller, ben on va se retrouver à la rue.
C'est ce qui, oui, ce qui... puis, moi, si j'ai un dégât d'eau chez moi, moi, je suis mobile, je suis pas en fauteuil. Là. Mais si j'ai un dégât d'eau chez moi, je peux aller chez ma fille qui a un appartement sur deux étages. Tu comprends?
Oui, oui.
Elle n'a pas de problème. Sauf que si j'étais en fauteuil, je pourrais pas faire ça. C'est que, tu sais, le milieu, tout le réseau alentour de la personne n'est pas nécessairement non plus accessible. Ça fait que on se ramasse que, tu sais, Puis il n'y a pas tant d'hôtels accessibles aussi abordables.
Non, c'est ça.
Il n'y a pas beaucoup de solutions. Vraiment, là, on ne peut pas avoir cherché et cherché. Puis je vous dirais qu'on a ouvert le logement d'urgence le 4 août. Puis il y avait déjà 2 personnes.
Ben, ça montre, encore une fois, vous l'avez dit, malheureusement, ça montre le besoin, mais ça veut dire que vous êtes au bon endroit, en fait, puis on espère que, à force d'en parler, à force de faire des démarches, il y aura d'autres opportunités pour avoir plus de logements.
Oui, puis nous, on commence à penser à vraiment à travailler sur l'itinérance. Là, on parle beaucoup de l'incepté résidentiel, mais vraiment les personnes qui sont à la rue avec un handicap, puis qui ont un vieillissement précoce, et un vieillissement précoce à cause de la rue. Puis là, on a vraiment des projets là pour au moins accompagner ces personnes-là aussi, là. Parce que ça aussi, c'est du long terme. Ça aussi, il faut voir que c'est pas de on met quelqu'un dans un logement puis c'est beau. C'est qu'il faut y régler les problèmes de santé mentale, de toxico. Il y a quand même c'est quand même complexe. Mais justement, ça se travaille vraiment là avec d'autres organismes qui ont d'autres compétences. C'est que je pense que dans tout ça, qu'est-ce qu'on a appris, c'est vraiment à travailler avec les autres.
Oui, puis c'est quelque chose qu'on oublie, hein. Malheureusement, c'est souvent du court terme qu'on offre, et c'est mieux que rien. Mais souvent, ben, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que ces gens-là, on les sort pas de la rue de façon définitive, parce qu'on n'a pas de service à long terme pour les aider à se réorganiser, à leur réinsertion dans la société, ce qui est quand même ce qui peut être difficile là, pour des personnes qui sont à la rue depuis un moment ou qui sont en difficulté depuis un moment.
Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Puis, je dirais aussi que la difficulté qu'on avait, en tout cas, on a vu, c'est de travailler quelquefois avec le réseau, que là, ils placent les gens dans des logements. Tu sais, ils trouvent un logement, c'est pas parfait, mais ça va aller. Tu sais, c'est comme, mais en fait, non, c'est pas parfait, c'est pas accessible.
Oui, ben voilà, oui.
Là, tu dis, mais là, tu es content parce que tu viens de trouver un toit, ça, je comprends. Mais il va revenir, c'est moi qui vais l'avoir dans un mois, dans 2 mois, c'est moi qui vais le revoir, là. Puis je vais être obligée de trouver quelque chose de plus permanent. Mais c'est ça, c'est de prendre son temps puis de bien faire les choses. Puis c'est sûr que des logements, il n'y en a pas des tonnes de logements accessibles, mais jusqu'à présent, nous, on travaille autant à l'externe qu'avec le logement d'urgence, puis on a toujours trouvé un logement pour quelqu'un.
Oui, mais vous me semblez être des gens quand même très débrouillards qui lâchent pas l'affaire facilement non plus.
Non, effectivement. Effectivement, vous avez raison. Mais reste que, tu sais, c'est vraiment... mais ça peut prendre 3 mois. Mais moi, j'aime autant prendre 3 mois pour la mesure qui me reste dans mon logement d'urgence que le mettre dans une place qui ne convient pas, en fait.
Oui, bien, c'est une autre mentalité, en fait. Là. C'est ça, c'est une autre façon de voir les choses.
Oui, tout à fait, tout à fait. Mais ça fait des petits. Puis on voit que aussi le CIUS commence à travailler un petit peu plus dans cet ordre d'idée-là. Ça fait que je pense qu'on est en train d'initier un mouvement quand même solidaire, collectif. Fait que c'est bien agréable de voir tout ça.
En souhaitant que ça continue, Mme Montreuil, vous êtes directrice clinique du Carrefour familial des personnes handicapées. Et si on veut en savoir plus sur vos services et sur le logement d'urgence, j'imagine que vous avez un site Internet et des réseaux sociaux.
Oui. Sur le site Internet, il n'y a peut-être pas les indications pour le logement d'urgence. Ça va aller en janvier. Mais de toute façon, vous pouvez téléphoner au numéro que vous allez retrouver là, sur le site Internet si vous voulez avoir de l'information. Si vous voulez savoir comment procéder, si vous avez quelqu'un, vous êtes inquiet pour quelqu'un, pour toutes sortes de demandes, finalement.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous et encore une fois, merci de votre initiative là, pour changer les choses et on espère que ça continuera en 2026.
Mais merci beaucoup à vous.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Nous sommes de retour à l'émission Sans détour pour la revue de presse. On commence avec quatre conseils pour être allié des personnes en situation de handicap. Dans le temps des fêtes, hein, on sait, on peut avoir des soupers de famille, des rencontres, on peut avoir des soupers aussi avec les employés. Donc, quatre conseils pour être un bon allié des personnes en situation de handicap. Ça marque aussi, donc, avec la Journée internationale des personnes handicapées qui y était le 3 décembre dernier, donc il y a quelques jours. Conseil numéro un, demander avant d'agir. Il est essentiel, évidemment, d'avoir le consentement d'une personne avant de la toucher. Souvent, pour bien faire, on va prendre la main de quelqu'un ou on va l'attirer pour essayer de l'aider. Et c'est évidemment là, pour aider qu'on fait ça, mais sans le consentement des gens, bien, ça peut évidemment emmener à des situations cocasses ou à un inconfort de la personne. Et donc, aussi, de faire les choses à sa place, des fois, ça peut être accommodant pour la personne. De toujours avoir des gens qui font les choses à sa place sans lui demander si elle a besoin d'aide. Encore une fois, c'est fait avec plein de bienveillance, mais ça peut être mal perçu par la personne et lui causer un inconfort. Donc, il faut toujours demander avant d'agir. Le numéro 2, la curiosité est bien et assistance est mal. Donc, il faut évidemment se montrer curieux et ouvert à notre entourage, aux personnes qu'on ne connaît pas. Par contre, il faut faire attention pour ne pas être insistant, pour ne pas être indiscret. Hein? Demander aux gens quels sont, par exemple, leur handicap ou quels sont leurs diagnostics quand on ne les connaît pas, ça peut être, encore une fois, malaisant et les personnes n'ont peut-être pas envie de nous faire un cours 101 sur leur situation d'handicap ou sur leur situation personnelle. Donc, il faut vraiment trouver le juste milieu entre la curiosité et l'assistance, et particulièrement, j'ai envie de dire, avec les personnes qu'on ne connaît pas hein, dans les endroits publics. Ils sont peut-être pas dans une situation ou dans un matin où ils ont envie de parier de ça, où ils ont le temps à parier aussi. Donc, il faut faire attention à ça. Conseil numéro 3, éviter les compliments déplacés. Toutes les personnes en situation de handicap ont déjà entendu le fameux « t'es belle pourtant pour une personne en situation de handicap » ou « t'es beau pourtant pour une personne en situation de handicap » ou « t'es tellement courageux, courageuse ». Encore une fois, ça vient d'un bon fond, mais ça peut créer un malaise. Hein. Les personnes en situation de handicap vont à l'épicerie comme tout le monde. C'est pas un acte de courage, c'est parce qu'on doit manger. Donc, il faut y penser avant de leur acheter des compliments à tout vent et donner un compliment là, qui vient du cœur, mais sans nécessairement le relier avec la situation de handicap. On peut dire à la personne qui est beau, qu'elle est belle, sans dire qu'elle est en situation de handicap, par exemple. Donc, on peut complimenter, mais sans souligner l'incapacité de la personne. C'est toujours plus gagnant. Et finalement, conseil numéro 4, élargir sa vision du monde. Être capable de poser des questions lorsque, comme je le disais tout à l'heure, lorsque c'est nécessaire de le faire, lorsqu'on est dans un endroit bienveillant où on peut se permettre de poser des questions à une personne qu'on connaît, par exemple, ou avec qui on a un bon contact. Il faut aussi reconnaître ses propres préjugés et voir à y travailler. Tout le monde a des préjugés, mais encore faut-il être capable de passer outre et de s'informer pour passer outre ces préjugés-là. Être un bon allié, c'est aussi d'informer sur les réalités des personnes en situation de handicap, consulter leur travail, consulter les militants, consulter les rapports dont on a parlé tout au long de l'émission, faire des lectures par rapport à l'handicap, aux enjeux des personnes en situation de handicap, quels qu'ils soient. Donc, c'est ce qui est le plus gagnant là, pour être curieux et élargir la vision, notre vision du monde. Donc, quatre conseils pour être allié des personnes en situation d'handicap. On poursuit maintenant avec une autre nouvelle qui nous vient de la SQDI, donc la Société québécoise de déficience intellectuelle, qui s'adresse donc au tribunal pour faire reconnaître l'exploitation des personnes en situation d'handicap sur les plateaux de travail. Et là, ici, là, c'est vraiment un enjeu qui est très complexe. Donc, je vous donne la nouvelle, là, il y a eu vraiment un recours collectif qui a été déposé en cour pour mieux encadrer les plateaux de travail pour les personnes ayant des situations d'handicap, parce que dans bien des plateaux de travail, les personnes ne sont pas payées au salaire minimum. On peut bénéfices sociaux par rapport aux autres employés parce qu'ils sont en situation d'handicap. Et c'est ce que la SQDI donc, dénonce, c'est le fait donc, de maintenir ces personnes-là dans des programmes pour les personnes en situation d'handicap qui devraient mener un emploi permanent régulier, mais qui trop souvent ne mènent pas un emploi permanent régulier. Et donc, on maintient ces personnes-là dans des situations de précarité financière, dans des situations de précarité sociale aussi, parce qu'elles n'ont pas le droit à tous les avantages sociaux des autres personnes. Et encore une fois, là, c'est, je le disais tout à l'heure, un dossier très complexe, c'est à double tranchant. Il y a des personnes qui sont sorties dans les médias pour dire oui, mais dans certains cas, là, si on interdit les plateaux de travail, il y a des personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas faire autre chose, qui donc vont perdre leur emploi, même si l'emploi n'est pas rémunéré ou très faiblement rémunéré pour une personne en situation de handicap grave, entendons-nous. C'est mieux que rien. D'autres vont dire que, au contraire, ben c'est d'exploiter ces gens-là. Donc, il y a vraiment deux côtés à la médaille et je pense que c'est ça. Il faut trouver un juste milieu. Il faut aussi se parler. Il faut mettre en place des réglementations qui vont favoriser donc le maintien de l'emploi des personnes en situation de handicap et adhésion à un emploi régulier à plus long terme. Peut-être qu'on oublie ça. Et il y a aussi, il faut le dire, différents types d'handicap. Il y a des gens qui sont, on le disait donc avec M. Rago, des gens qui sont tout à fait capables d'exercer un emploi régulier, mais qui, à cause de préjugés, n'y ont pas accès. Il y a aussi une petite tranche de la population qui n'est pas en mesure d'être dans un emploi régulier. Et donc, il faut penser pour les deux côtés. Il faut penser pour tous ces personnes-là. Il faut mettre en place des réglementations qui tiennent en compte des différentes réalités de ces personnes-là. Parce que, évidemment, la situation d'handicap, ben, ça peut être très large. Mais quand même, il faudra suivre le recours collectif qui a été approuvé et qui est mené par la SQDI. Et voir où ça amènera en espérant que ça ouvre les discussions. Finalement, on parle de consommation d'alcool et de cannabis chez les gênés. C'est un enjeu. C'est un enjeu dont on parle très peu, entre autres parce que on a des préjugés où on maintient encore des stéréotypes là, sur les personnes âgées. Et donc, les personnes âgées ne vont pas parler nécessairement de leurs problèmes de consommation, ne vont pas nécessairement connaître non plus les problématiques auxquelles cela peut mener, et on n'en parle pas assez, peut-être par pudeur sociale, peut-être, je disais, là, par préjugé. Et donc, il y a un problème de consommation d'alcool. Là, c'est un constat de consommation d'alcool et de cannabis. Là, c'est un constat de l'Association pour la santé publique du Québec. ASEPQ qui dit qu'effectivement les personnes en situation les personnes âgées consomment trop de ces substances. On ça vient aussi évidemment avec l'isolement, avec les problèmes de santé mentale, avec les problèmes de santé physique. Donc c'est tout le filet social qui a un problème, qui est incapable donc d'aider ces gens-là, et ces gens-là se tournent vers de l'automédication ou des substances pour ne pas ressentir leur malaise. Donc, leur malaise, donc, c'est vraiment une conversation qu'on doit avoir. Et malheureusement, on ne s'y penche pas assez au Québec. Il y a encore peu d'études qui parlent de ces problématiques-là et qui trouvent des solutions qui sont adaptées aux personnes âgées et qui sont adaptées à leurs enjeux et aussi qui sont adaptées à leur vision du monde, parce que certaines personnes âgées, donc, ont encore une vision du monde où par exemple, la violence est acceptable, ils connaissent très peu la violence financière, connaissent très peu leurs recours, sont souvent connaissent très peu les services qu'on offre à eux. Donc, c'est vraiment un ensemble qui semble manquant là, dans notre société, qui fait en sorte que ces personnes-là vont être portées à consommer davantage que d'autres tranches de la population, avec, évidemment, les risques que cela peut comporter. Donc, ce que nous disent, en fait, l'Association pour la santé publique du Québec, c'est qu'il faut porter attention à nos personnes aînées, il faut ouvrir les discussions, il faut parler de cette consommation-là, il faut aussi, évidemment, prévenir, mettre un filet social qui est plus solide autour des personnes âgées pour éviter les problèmes de santé mentale, les problèmes d'isolement social, les problèmes, évidemment, de santé physique qui peuvent mener, entre autres, à la consommation. Donc, c'était tout pour cette semaine pour la revue de presse. On se retrouve la semaine prochaine à l'émission Sans détour. Bonne semaine.